on ferait bien de résumer un peu de cette affirmation si globale d'hier pour voir que la portée sociale de l'œuvre de Jésus-Christ va même plus loin que les éléments qui sont notés dans la feuille. On y parle très peu de sa morale qu'il enseigne. Le point 4 parle, nous n'en avons pas parlé, du fait qu'il a envoyé un tas de gens pour sillonner le pays, une fois 12, une fois 70, j'apprends, hein, pour parler d'un royaume qui allait venir et pour faire des grandes œuvres comme lui en faisait. Ça devait impressionner, et ça a effectivement impressionné le roi. Donc, dans son enseignement, dans son vocabulaire, dans le fait de former un mouvement, de ramasser un public, tout ce que Jésus faisait et disait avait une portée sociale qui troublait les autorités et qui présentait aux gens une espérance. Ça, pour résumer hier. Maintenant, les deux dernières questions sur la feuille. Quel est le rapport de cela avec, d'abord, sa croix? Jésus s'est fait crucifier. Et deuxièmement, avec notre croix. Déjà avant sa mort, Jésus avertissait ses disciples. C'est un enseignement que nous rencontrons plusieurs fois, qu'il y aurait pour eux aussi un destin comme le sien. Peut-être le texte le plus explicite est celui qui est cité dans la feuille, Luc 14, 25 et suivant. Comme de grandes foules faisaient route avec lui. C'est-à-dire qu'il est populaire. Il a un grand auditoire. Il y a du monde qui le suit. Mais au lieu de se faire démagogue, de profiter de cette popularité et de d'échauffer ce mouvement et de le faire emballer, qu'est-ce qu'il dit? Attention, ne me suivez pas si vous n'avez pas calculé ce que ça va coûter. Et qu'est-ce que ça va coûter? Le prix est décrit en termes sociaux. Mise en danger ou rupture des liens de famille, particulièrement, mise en danger de sa propre vie. Et le résumé de tout cela, c'est que Jésus l'appelle porter sa croix et marcher à sa suite. Le contenu de ça, nous regardons davantage dans la deuxième feuille, mais il est important que Jésus prévoit déjà avant sa passion que ses disciples auront aussi leur passion. Et les avertit en leur disant de ne pas le suivre trop facilement. En marge, ça nous poserait des questions quant à certaines méthodes et certaines conceptions de l'évangélisation qui n'avertissent pas toujours les gens du coût de la vie avec Christ. Mais ça, c'est un sujet à côté. Revenons maintenant à la croix de Jésus lui-même. Il y a des grands débats parmi les érudits pour savoir comment doser les responsabilités du Sanhédrin, c'est-à-dire du tribunal et du gouvernement juif, qui était un gouvernement de pays occupés, type Vichy, et du tribunal, du procurateur, Pilate, représentant la justice romaine. Est-ce que ce sont les Juifs qui l'ont condamné? Est-ce que sont les Romains? Les érudits se battent toujours. Mais il est sûr sur le plan juridique que si Pilate avait à faire de la statistique pour l'administration de Rome sur les exécutions dont il prenait la responsabilité, que Jésus était mis à mort comme prétendant à la royauté. Parce que cette accusation était mise en toutes lettres, en plusieurs langues, on nous le dit même, sur la croix même. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez noté que les raisons qui sont données pour la peine de mort comprennent l'idée de donner une leçon, de faire peur aux personnes qui pourraient être tentées par le crime. S'ils savent que le prix de ce crime est la peine de mort, ils risquent moins de le commettre. C'est l'idée. Statistiquement, psychologiquement, il y a des limites à ce raisonnement, mais c'est la logique qui est souvent utilisée. Alors, si on met quelqu'un à mort, il faut dire pourquoi. Et pour cela, les Romains avaient une législation qui exigeait que dans le cas de chaque exécution, il fallait dire quel était le crime. Donc cet insigne, ce texte sur la croix, explique la base juridique de l'exécution. Il est accusé d'avoir voulu être roi des Juifs. Donc, une accusation strictement politique.
Autrement dit, on peut dire que Jésus a été, dans la perspective où tu te places, accusé de subversion.
Oui, il est assimilé aux zélotes, c'est-à-dire aux FLN de l'époque, comme meneur d'un mouvement qui veut désobéir aux Romains et rétablir l'indépendance juive. C'est une accusation fausse, parce qu'il ne préconisait pas une révolution violente, mais Jésus acceptait la possibilité d'être mal compris dans ce sens, ce qui n'arriverait pas à nous. Il avait une posture, il avait un vocabulaire, il avait une façon de monter l'intérêt des foules qui permettait cette mauvaise interprétation.
Est-ce que Barabbas était un zélote?
Plus fort.
Est-ce que Barabbas, qui était lâché à sa place, était zélote? Tous les commentateurs disent que oui. Que Pilate marchandait un zélote ordinaire, type Che Guevara, contre un zélote moraliste, prophétique. Et il lâchait un au prix de terminer le cas de l'autre. Mais c'était. Et les deux autres aussi. Les deux autres qui étaient crucifiés à son côté, on les appelle brigands en pensant que ça veut dire des petits voleurs ou des gens qui volaient à main armée. Mais le terme qui est utilisé pour les décrire en grec est aussi utilisé pour les zélotes. Alors il est bien possible que les deux autres aussi étaient effectivement des insurrectionnistes.
Oui, alors il y avait une question là-bas, je crois, on peut peut-être la prendre, à condition qu'elle se rapporte directement à ce qui a été dit. Hein.
Le rapprochement avec, ou la juxtaposition avec Barabbas est encore un élément à l'appui de cette interprétation. Maintenant, faisons attention, cela ne veut pas dire que Jésus était ce qu'on l'accusait d'être, mais il a agi en public d'une façon qui permettait cet malentendu. Il courait ce risque, et nous ne courons pas ce risque.
Oui.
Est-ce que vis-à-vis des Juifs, cela a été perçu comme ça? Parce que les Romains, d'accord, pour les Juifs, est-ce que les Juifs ont vraiment perçu ça?
Est-ce que les Juifs ont perçu Jésus comme les Romains l'ont perçu, c'est-à-dire comme un homme qui pouvait finalement mettre en danger leur situation d'occupant, de maître?
Les Juifs n'existaient pas comme une unité, un seul groupe avec une seule mentalité, une seule façon de percevoir. Tous ceux qui écoutaient Jésus favorablement, c'était les Juifs. Tous ceux qui partaient au désert, dans le monastère, c'était les Juifs. Alors il faut poser la question plus étroitement, est-ce que ceux qui étaient les chefs de la communauté civile juive, le Sanhédrin, les Hérodiens ou les Sadducéens, ce sont les noms que nous rencontrons comme désignation de ces partis, est-ce que ceux-là voyaient en Jésus une telle menace? Il paraît que si. Un exemple, c'est le fait que c'était eux qui lui ont posé la question de, est-ce qu'il faut payer les impôts à César ou non? Ces groupes, justement, sont nommés comme ceux qui posaient cette question, qui voulaient l'obliger à se découvrir. comme adversaire du paiement des impôts. On comptait sur lui pour dire ça et pour se mettre en danger devant les autorités. Il a tourné la question autrement. Mais le fait qu'il pensait pouvoir l'attraper avec cette question est un indice du fait qu'on voyait en lui ce genre de démagogue. D'autres exemplaires, par exemple, ou éléments de la même interprétation, on le trouve même dans le procès même, le procès juif de Jésus, où nous comprenons mal les termes parce que nous y apportons le vocabulaire chrétien d'après, de siècles après même. Le terme « fils de Dieu » dans le langage juif de l'époque ne voulait pas dire la deuxième personne de la Trinité. Ça n'existait pas, tout ce système d'explication du statut de Jésus en termes de filiation divine et de Trinité. Le terme « fils de Dieu » en araméen, en hébreu, dans l'Ancien Testament, dans certaines psaumes, veut dire « le roi ». C'est un autre terme pour le Messie. C'est plus tard que les chrétiens ont, avec raison, évolué une conception beaucoup plus profonde de ce que ça veut dire, de parler de Jésus comme fils. Mais à l'époque de son procès, cette accusation-là aussi était une accusation plutôt de la prétention messianique que de vouloir être substantiellement égal à Dieu, tout ce qui venait plus tard dans la doctrine chrétienne.
Alors, on peut quand même poser la question suivante. Ah, il y a une question là, pardon. Oui.
Si vous avez dit qu'il allait poser la question à propos du tribut, mais quand même dans Luc, il est dit, vous seriez à l'accuser en disant, il empêche de payer le tribut du César. Alors,
quel est le verset de texte? Luc 23, 2, encore un exemple que Jésus était accusé d'empêcher les gens de payer les impôts. Ça soutient simplement qu'il y avait du sens quand les gens sont venus vers lui pour lui poser la question que nous avons dans Matthieu, faut-il payer ou non le tribut? Il n'a pas dit oui. Il a dit, si vous vous salissez les mains selon votre propre loi avec les pièces idolâtres qui ont la tête de César dessus, alors c'est votre affaire. Donnez à César ce qu'est César, mais Jésus n'affirme pas qu'il est moralement irréprochable. Il ne l'interdit donc pas non plus, comme les zélotes faisaient. Mais c'était une question qui aurait pu l'attraper. Il le voyait bien. Alors la présence de cette accusation est encore un document de la portée de la présence de Jésus.
Oui, alors je crois que tu présentais ta question comme une objection. Et alors, il faudrait que tu la précises un peu.
C'est-à-dire, il y aurait bien des personnes qui pourraient te dire, oui, mais en fait, il a déjà répondu à la question.
Oui, mais alors ça va dans quel sens? Quelle est l'objection?
Ben, c'était probablement une accusation ou un rapport faux ou simplifié, mais qui...
C'était un jugement truqué, hein, de toute façon.
Certainement, mais les autorités qui veulent truquer un jugement ne peuvent pas le faire sans une certaine plausibilité. Ils ne peuvent pas faire imaginer une accusation quand toute l'évidence est dans le sens contraire. On truque une accusation quand il y a une certaine proximité entre l'accusation et la vérité.
Oui, alors je crois qu'il faudrait peut-être ici profiter de cette occasion, puisque le texte nous a été proposé, pour voir exactement ce que veut dire ce texte qui est très souvent mal compris ou alors trituré. Je voudrais que tu le reprennes et que tu donnes une façon de le comprendre qui te paraît juste dans le contexte de ce passage et en relation avec notre problème à nous. Donc c'est le passage de Luc combien?
Non, celui que cité n'est pas le central, c'est un annexe. Luc 23, où nous arrivons déjà près de la fin, à l'accusation. Et là, il est dit, comme du passé, 23, 2, c'est le procès même devant Pilate. Donc c'est là que ça peut bien être. une accusation truquée ou fausse, ou exagérée, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César et se prétendant Christ, Messie, ça veut dire le Messie qui est le roi. Donc c'est l'accusation qui est portée contre lui devant Pilate et qui revient sur la croix comme la forme juridique de l'accusation. Mais le texte à laquelle tu voulais qu'on regarde, je suppose, c'est Matthieu 22. Parallèle aussi en Luc 20 et en Marc 12, mais j'ai ici sous les yeux Matthieu 22.
N'est-ce pas, ce texte a été très souvent cité pour dire, au fond, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de César et puis il y a le royaume de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Nous, nous sommes dans le royaume de Dieu et puis les autres, ils sont dans le royaume de César. Et le tout, c'est de faire passer les gens du royaume de César dans le royaume de Dieu. Alors, est-ce que c'est là l'interprétation qu'on peut honnêtement donner, parce qu'il s'agit là non pas de triturer des textes, mais il s'agit de voir ce que le texte dit, d'essayer de voir.
La question serait encore plus compliquée que ça. Tous admettraient qu'il y a deux royaumes et qu'il s'agit de trancher entre les deux, mais quel est le rapport entre les deux? La question est posée, et l'évangéliste nous le fait bien clair, dans un but piégé. Jésus même répond, Matthieu 22, 18, « Pourquoi me tendez-vous un piège ?» Et en quoi consiste ce piège? Il commence en lui faisant des compliments. D'abord, notons que ce sont les Hérodiens qui se joignent aux pharisiens, c'est-à-dire un parti nettement politisé. Il commence par un compliment, « Maître, nous savons que tu es franc. » et que tu enseignes la voie de Dieu avec franchise, sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous donc. Donc il le prépare, l'encourage à être radical. Il veut qu'il donne une réponse qui le compromette. Et quelle serait cette réponse? Naturellement, on sait que les zélotes disaient ça, on veut le mettre dans la catégorie zélote, révolutionnaire, de dire simplement ne pas payer.
C'est-à-dire, en fait, trouver un argument pour le mettre hors de combat.
Oui, le faire trahir comme insurrectionniste et ainsi prouver qu'il est ce qu'on pensait qu'il était.
Non, mais attendez, je crois qu'il ne faut pas interrompre tout le temps parce que nous sommes dans une explication qui mérite d'aller jusqu'au bout et ensuite nous pourrons reprendre la chose. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Zélote, bon. Alors tu expliques.
Bon.
D'accord. Ce genre de choses, oui.
Ça, c'est le mot du 1er siècle pour FLN. C'est tellement près, tellement parallèle que ça suffit pour maintenant.
Alors, pour nos amis anglo-saxons, FLN, ça veut dire Front de Libération Nationale, c'est-à-dire, au fond, des mouvements radicaux, mais qui utilisent les méthodes violentes pour se débarrasser d'un occupant, par exemple, ou pour libérer un pays dans le sens où on l'entend aujourd'hui.
Et qui ont une vision nationale de la libération qu'ils estiment nécessaire et possible. Donc ce ne sont pas, comme nous avons ailleurs, des gens de bonne foi, ou des disciples ignorants, ou le petit peuple ne sachant vraiment tourner. Ce sont des polémistes politisés qui veulent obliger Jésus ou le provoquer, le mettre dans un coin où il ne peut plus éviter de révéler ses sympathies révolutionnaires. S'il voulait vraiment se couvrir et se protéger contre cette suggestion, il aurait pu dire naturellement « Payez toujours vos impôts, j'ai jamais dit le contraire ». Il ne donne pas cette réponse simple et sécurisante. Et qui aurait empêché toute critique, il renvoie la balle, il renvoie la question en leur demandant s'ils ont sur eux des pièces. Ce qui trahit beaucoup plus que le lecteur moderne se rend compte. À l'époque, on n'avait pas besoin de porter de l'argent romain. Il y avait toutes sortes de métaux en forme de pièces. Qui venaient de plusieurs pays, de plusieurs périodes, et qui avaient une valeur d'argent, on pouvait éviter d'avoir sur soi des pièces avec la tête de César.
Un instant, il y a une...
Simon, rappelle mon téléphone.
Les juifs pieux, les vrais pharisiens, évitaient de porter ces pièces parce que c'était des images. Et il était interdit dans le décalogue de faire des images. Les zélotes évitaient de porter ces pièces parce que c'était des signes de compromis avec l'occupation. Donc il y avait tout un mouvement qui évitait d'avoir de l'argent romain en poche. Mais ces gens-là, ils en ont. Alors Jésus leur a pris dans leur propre complicité dans l'occupation. Alors il dit, si vous acceptez donc d'être dans le jeu de l'occupation, vous n'avez pas pourquoi ne pas payer. Alors donnez à César ce qui a sa tête dessus. Ce n'était pas seulement sa tête, il y avait même une inscription qui l'appelait divin. Donc c'était vraiment un document idolâtre, la pièce. Et ces bons juifs, ces pharisiens, avaient des documents, des idolâtres dans leurs mains. Donc si vous avez ça, ils se sont déjà révélés complices. Vous n'avez pas de raison de ne pas continuer le jeu avec l'occupation. Alors payez, donnez à César ce qui a son nom, sa tête et ses prétentions divines dessus.
Oui, mais alors pourquoi? Et à Dieu ce qui est à Dieu?
C'est ça qu'il n'avait pas demandé. Il ne voulait pas savoir ça. Lui retourne la question, ou il pose une question que eux n'avaient pas posée. Qui met leur question dans un cadre tellement plus grand que leur question n'est plus la vraie question. Ils renversent la pointe de l'argument, et au lieu que ce soit eux qui le mettent en question avec leur monnaie et leur choix, c'est lui qui les met en question en leur disant, vous ne mettez pas la chose dans le cadre qu'il faut. Vous posez la question pour savoir ce qu'il faut faire avec quelques sous. Moi, je pose la question de ce qu'il faut faire avec la vie, avec le culte, avec l'honneur que nous devons à Dieu. Alors, il renverse la ligne prophétique, le coupant de leur rencontre, en leur posant une question qu'ils n'avaient pas demandé. Et qui va dans le sens, si nous le mettons dans le cadre de tout le reste de l'enseignement de Jésus, de l'exigence de justice, l'exigence de partage, de la dignité du petit, etc., qui est la base de sa critique de la présence romaine. Critique implicite, mais critique qui leur avait permis de penser qu'ils diraient tout carrément de ne pas payer. Encore plus encore, le résultat de cette double réponse, si nous le prenons au sérieux, n'est certainement pas de dire qu'on donne à César tout ce qu'il veut et que le reste reste pour Dieu. Le résultat, si on prend légalement, textuellement à la lettre cette parole de Jésus, c'est que c'est à nous chaque fois de décider. Il faut que ce soit décidé. Qu'est-ce que César a le droit d'exiger? Qu'est-ce qui a vraiment sa tête dessus? Et le reste est à Dieu. L'image de César est sur les pièces. Où est l'image de Dieu? C'est le prochain. Je ne dispose pas du prochain au nom de César. Donc il exige une approche critique, un discernement dans le domaine des questions sociales qui cadrent bien dans tout le reste de ce qu'il disait. Il n'y a pas du tout ici une carte blanche pour César dans un certain champ.
Pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas couvert en répondant simplement bien payer le tribut à César, puisqu'après tout ça aurait permis de continuer sa mission, une partie de sa mission tranquille? Pourquoi s'est-il exposé ainsi, on pourrait presque dire gratuitement?
Ça cadre simplement dans le reste. Il ne voulait pas sécuriser. Il ne voulait pas être mal compris comme ami de l'occupant. Il acceptait le fait de l'occupation par non-violence, par refus d'insurrection sur le plan violent, mais il n'acceptait pas moralement la légitimité de cette situation et donc il ne voulait pas la cautionner.
Oui, mais alors c'est une approche extrêmement inefficace. Parce qu'en fait, cette situation sociale, est-ce qu'il l'a vraiment changée? Après tout, Jésus a mené un certain type de combat qui l'a conduit à la croix. Donc, en fait, c'est l'échec sur le plan, j'entends, sur le plan du changement de la structure sociale. Et ça pose le problème qui est posé au numéro 6. Pourquoi Jésus renonce-t-il à la voie violente?
La première façon de le poser va un peu au-delà d'une étude biblique, parce que la conception de l'efficacité n'est pas très visible dans les évangiles. Mais nous la posons, donc il est légitime de le poser, mais en nous rendant compte que cela ajoute un élément de complication à notre recherche morale.
Bon, alors on peut peut-être
laissons ça pour le moment.
C'est ça, pour le moment, et allons... Simplement à la question que toi-même tu poses, là, numéro 6, pourquoi Jésus renonce-t-il à la voie violente? Car c'est un peu le problème qui nous est posé. Vous ne faites rien, vous ne participez pas au combat de ce temps. Tout cela est inefficace. Vous êtes bien gentil, vous êtes dans votre coin. Colline?
En rapport avec cela, il y a un autre texte que j'aimerais lucider, c'est dans l'idée de la royauté de Jésus et la croix, et c'est le passage devant Pilate en Jean 18, 33, 37, et particulièrement le verset 36.
Jean 18, 33, 35.
33, 37, et particulièrement 36.
Verset 36, particulièrement.
Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, etc.
Oui, et ça rejoint encore une fois la question tout à l'heure du tribut à César par la bande. Alors, on va répondre à cette question, puis on reviendra au problème de la violence après, hein, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Non, je crois que c'est plutôt maintenant qu'il faut parler de ça.
Pour vraiment faire justice d'une question comme ça, il faudrait passer beaucoup de temps à savoir ce que, dans le langage de Jésus, et particulièrement dans le langage de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, veut dire « monde ». Le monde n'est pas l'alternative au ciel, ni au domaine des idées platoniques. Le monde est une façon de vivre dans ce que nous appelons le monde. Et le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, mon royaume il est ici, est une autre façon de vivre dans ce que nous appelons le monde. L'alternative n'est pas d'être hors de la vie sociale, de la vie économique, la vie de l'université, la vie du travail. C'est un court-circuit assez peu responsable de sauter de ce que Jésus veut dire quand il parle de monde à l'idée de la retraite sociale ou la limitation du chrétien à l'ordre du jour religieux et cultique. Le royaume de Jésus n'est pas de la sorte de royaume qui est promu par le combat physique, par la violence. C'est ce que j'étais en train de dire par un autre biais. Mais il ne dit pas que son royaume est pour un autre monde, que son royaume est seulement pour l'au-delà, ou seulement pour le cœur. Non, son royaume est une autre façon d'être là, présent devant lui.
On pourrait d'ailleurs rappeler ce passage où Jésus, au moment où il quitte ses disciples, dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que ça va dans le même sens?
C'est une parole d'après la résurrection qui a affaire avec le cours de l'histoire plus tard. C'est en rapport, mais je ne crois pas que cela illumine directement le texte devant Pilate.
Il y a un meilleur passage, peut-être, c'est là où les disciples étaient en train de savoir qui était le plus grand.
C'est là que je voulais venir. C'est le texte C'est le texte qu'il y a un mois, j'ai mis en numéro 6. Passons là, Luc 22. Il y a des parallèles aussi en Matthieu et Marc qui viennent dans un autre endroit dans le récit évangélique. Dans les autres textes, c'est avant d'arriver à Jérusalem et la question est posée par Madame Zébédée, qui... connaissant le style social du Proche-Orient, parle, croit qu'on arrive mieux en passant indirectement à celui qui a des privilèges à donner. Et il veut qu'un de ses garçons soit premier ministre et l'autre ministre de l'Intérieur dans le nouveau régime. La pensée est parallèle, mais le contexte est encore plus solennel en Luc 22. Il s'éleva, 22, 24 et suivant. Il s'éleva entre eux une contestation. Lequel d'entre eux pouvait être tenu pour le plus grand? Il leur dit, les rois des nations leur commandent. Commander, ce n'est pas assez fort. C'est le verbe seigneurier, qui n'existe pas en français, mais qui existe en espagnol. Domine, exerce la seigneurie. Font le Seigneur sur eux. Et ceux qui exercent l'autorité sur eux se font appeler bienfaiteurs. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase-là. Ils se font appeler bienfaiteurs. Jésus ne dit pas ils sont bienfaiteurs. Il ne dit pas non plus qu'ils ne sont pas du tout. Mais il dit que ceux qui exercent l'autorité de dominion politique disent le faire au nom du bien des sujets. Et tout régime politique, qu'il soit démocratique ou tyrannique, prétend être bienfaiteur. Jésus décrit une caractéristique quasi universelle des gouvernements humains. Ils prétendent être bienfaiteurs. C'est-à-dire qu'ils font un argument moral en leur faveur. Ils n'admettent pas qu'ils sont simplement des brigands, des tyrans, des gens qui cherchent le pouvoir pour leur propre intérêt. Ils le font toujours pour le bien. Mais Jésus dévoile cette prétention d'utiliser la dominion sociale pour le bien. Pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, celui qui gouverne comme celui qui sait. Et la fin du paragraphe, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sait. Nous n'avons pas, dans Luc, de récit sur le lavement des pieds des disciples par Jésus. Mais c'est juste à ce point dans l'histoire que nous l'avons en Jean 13. Alors quand Jésus dit « Je suis parmi vous comme celui qui sert », il se peut qu'il fait allusion, même sans que Luc nous le rapporte, à ce lavement de pieds. Cette expression dramatique de l'état de serviteur. Donc vous n'avez pas à être des rois qui dominent, pour la même raison que moi. Parce que moi, j'ai renoncé à ça pour être un serviteur, pour être moteur d'une autre sorte de changement social. Mais il n'appelle pas ça échec, lui. Donc, on aura encore à revenir à la question de l'efficacité. Pour lui, c'était le chemin qui était déjà tracé avant, qui était déjà décrit dans, par exemple, Ésaïe 52-53, le chemin du serviteur de l'Éternel, qui dans l'Ancien Testament est aussi une désignation politique, royale, mais une nouvelle sorte de roi qui fait valoir la justice jusqu'au bout de la terre par sa douceur et par sa souffrance. Donc, pourquoi Jésus a-t-il renoncé au moyen de la révolution violence, est-ce que c'était qu'il approuvait le régime existant? Non. Est-ce que c'était qu'il ne s'occupait pas de la détresse des gens? Non. Est-ce que c'était que les moyens des révolutionnaires violents étaient trop radicaux? Non plus. C'était que leurs moyens étaient trop peu radicaux. Que le moyen de la violence révolutionnaire pour essayer d'éloigner l'injustice établie est un moyen qui n'est pas suffisamment différent de ce qu'il veut éloigner. Utiliser la violence pour le bien par en bas n'est pas tellement différent que utiliser la violence pour la paix depuis en haut. Les avocats de la libération violente y voient une différence catégorique quant au but, quant aux fins qu'on recherche. Jésus regarde les moyens, particulièrement la question de la dignité de l'adversaire, l'amour de l'ennemi, et Jésus dit, vous voulez chasser les Romains avec les instruments des Romains. Vous voulez mettre fin à l'injustice avec des instruments injustes. Moi, je prends un autre chemin, mais vers cette même fin de l'affirmation de la dignité de l'opprimé et la création d'une nouvelle possibilité de communauté et de partage. Et cet autre chemin l'expose à la croix. Mais la croix n'est pas un échec, parce qu'il y a Pâques, il y a la résurrection, il y a Pentecôte, il y a la création d'un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple est déjà un brin de réalisation de ses promesses. C'est déjà une société où on partage le pain. Déjà une société où on renonce à la violence. Déjà une société où on partage le pouvoir de décision. Déjà une situation où les esclaves ont de la dignité, où les femmes ont la parole. Ce qui était révolutionnaire dans sa première église, quand on traduit à notre temps certaines phrases de 1 Corinthiens 11 et 14, on peut en faire pour aujourd'hui une raison de limiter la liberté des femmes de parler. Mais à l'époque de Jésus, cette liberté n'était pas limitée, elle n'existait pas du tout. C'est lui qui l'a créée. Les premières églises l'ont suivie en permettant aux sœurs de prier, de prophétiser. Au passage, qui leur dit de garder la tête couverte, a besoin d'interprétation, mais d'abord, c'est une libération des sœurs qui ont le droit à la parole dans l'Assemblée. C'est une nouvelle société. C'est le commencement d'un nouveau monde.
Il y a des questions qui jaillissent de partout, alors on va en prendre, ce qui montre que tout se dorme pas, ce qui est pas mal. On va en prendre quelques-unes, et puis ensuite, il faut absolument que nous travaillions par questions écrites pour faire un tri, sinon on va zigzaguer d'une question à l'autre. Enfin, on va prendre deux ou trois, donc il y a notre ami là-bas, oui.
Voilà, vas-y. 22. Il y a ensuite la récompense promise aux apôtres. Comment les apôtres qui sont juifs peuvent comprendre ce que leur promet le Christ?
Dans les 22, il y a la récompense promise aux apôtres. Comment pouvez-vous comprendre cela dans leur contexte judaïque?
Vous êtes ceux qui sont demeurés avec moi dans mes épreuves. Je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez, boirez à ma table en mon royaume. Vous siégerez sur des trônes au sujet des douze tribus d'Israël. Ça ne peut pas se comprendre comme contredisant ce qu'il disait avant. L'histoire de l'interprétation voit dans deux directions. Et je ne me sens pas obligé de décider entre les deux, et je ne me sens pas compétent de le faire en érudit. Une, c'est de voir, plus qu'à l'instant même les disciples le comprenaient, que l'accomplissement de cela sera dans l'Israël de la foi, c'est-à-dire dans l'Église, qui seront les chefs du nouveau peuple qui va être établi bientôt. Mais l'autre interprétation, aussi possible selon le texte même, il faut l'étranger sur d'autres bases que la lettre même, serait une perspective vraiment eschatologique de fin du temps et d'un rétablissement du royaume qui n'est pas la même chose que ce que Jésus va faire tout de suite dans la croix, mais qui arrivera plus tard. Alors là, il y a toute la question du royaume final, de la fin de l'histoire, du retour du Seigneur, qui dépasse de loin ce que nous pouvons discuter ici, mais qui de toute façon enlève le sujet du domaine de la décision de la stratégie sociale. Les deux explications possibles que j'ai citées, tous les deux cadreraient dans l'explication ou le sens que Jésus donne à sa croix.
Bien, une autre question là-bas, oui.
C'est au sujet de l'efficacité de la méthode non-violente. De notre temps, il y a eu des gens qui, dans des situations bien particulières, se sont armés de la parole du Christ pour lutter contre des situations, mais par la méthode non-violente. Je fais allusion à Martin Luther King. Et cette méthode était bien conformité avec l'enseignement du Christ?
J'hésite un peu à essayer d'entrer dans cette matière parce qu'il y a tellement à dire, tellement de complications et tellement de débats. Je dirais, pour le moment, puisque nous sommes seulement au début de l'entretien général, c'est un peu anticipé de parler déjà d'efficacité en temps moderne, mais je dirais que ceux qui disent que le chemin de Jésus était inefficace, qu'il a conduit à un échec pour lui et toujours conduira à des échecs parce que le monde ne tolère pas et n'écoute pas, ces gens-là devraient regarder de plus près le cas de King, le cas avant, où lui a pris certaines consignes, certaines notions techniques de Gandhi, et d'autres cas qui sont encore moins connus, mais qui continuent à avoir des effets. En Amérique actuellement, en faveur des Américains de descendance mexicaine et espagnole, il y a la mobilisation par un catholique très traditionnellement croyant, César Chavez, aussi des moyens non violents. Des fois on a dit que c'est seulement contre les Britanniques que ça peut marcher, ou seulement les protestants peuvent le faire. La question de l'efficacité est trop grosse, mais citer King comme baptiste noir américain qui a créé une stratégie qui a eu un certain effet, ça fait partie de la discussion très utilement. Et certainement, il a fait, c'était un mouvement qui a pris sa naissance dans les églises. Et donc, toute la mentalité était la piété baptiste noire de l'Amérique du Sud. Leur langage est biblique dans toutes les premières années de ce mouvement. On peut critiquer leur méthode, on peut juger, limiter leur impact, mais ça fait partie de la discussion sur l'efficacité, certainement.
Je crois que si cette question est vraiment une préoccupation, on le verra dans les questions écrites, et à ce moment-là, on pourra envisager de faire une réponse peut-être plus globale, parce que je ne crois pas que John Yodel recule devant l'obstacle, simplement que l'heure est avancée et qu'on ne peut pas en 2 minutes traiter d'un sujet aussi vaste. Oui, une dernière question peut-être, parce qu'Amélie, on arrête. Oui,
j'ai dû introduire le droit à la prise de parole des femmes. Ça fait exact, mais je voudrais savoir pourquoi Paul a éprouvé le besoin de limiter ce droit.
Oui, alors Jésus ne peut pas innover à donner la parole aux femmes et Paul l'a enlevé. C'est une exégèse un peu rapide. Et Maurice aura peut-être des choses à dire ce soir. D'ailleurs, si Paul l'a leur enlevé, elles l'ont bien reprise. Et j'en sais quelque chose.
C'est un de ces sujets où on doit choisir entre une réponse beaucoup trop facile et une qui est beaucoup trop longue. Le 11e chapitre de 1 Corinthiens dit très nettement que les femmes, on s'attend à ce qu'elles continuent à prier et prophétiser. Ça veut dire prêcher et conduire le culte. Seulement la tête couverte. La raison pour couvrir la tête, ça nous mènerait trop loin. Dans le chapitre 14, une certaine façon de parler dans l'Église est limitée ou interdite en faveur de d'embêter son mari à la maison. Mais il faut mettre ces deux ensemble et pas supposer que le deuxième annule le premier. Il y a plusieurs façons de les réconcilier. Mais Paul n'a pas enlevé la parole aux femmes. Il a encadré la parole que la femme devait prendre. Mais il n'a pas enlevé. Mais est-ce qu'on pourrait revenir juste à un coup d'œil à la deuxième feuille qui était pour aujourd'hui?
On va peut-être arriver à dépasser quand même le stade de la première feuille d'ici la fin du camp, mais c'est tellement de questions.
J'avais posé la question avant de faire les lectures, si quelqu'un voulait vraiment se servir de cette ossature pour se préparer, que chacun demande dans son propre souvenir qu'est-ce que porter la croix signifie habituellement dans votre expérience de la vie de la communauté évangélique. Puisque vous n'avez pas fait ça, je veux dire ce que je soupçonne aurait été votre réponse. La croix dans la cure d'âme protestante est le terme qu'on utilise pour décrire le fait que tout le monde a quelque chose à souffrir. Maladie, manque de chance dans la promotion professionnelle, une belle-mère difficile, des difficultés qu'on peut, qu'on doit porter avec courage, patience et amour, parce qu'on est chrétien. Et tout cela est vrai dans la substance. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il faut être honnête avec les textes et distinguer entre nos pieux usages de paroles bibliques et ce que le texte biblique veut dire. La croix de Jésus n'était pas une maladie inexplicable, un accident, un hasard, une relation sociale difficile à cause du tempérament de l'autre. La croix de Jésus était le prix de son engagement, de sa présence, de son enseignement, du fait qu'il troublait les gens, qu'il formait un mouvement, qu'il embêtait les autorités. C'était le prix de son obéissance. Il aurait pu l'éviter. Alors que ce qu'on appelle la croix dans la cure d'âme protestante est d'habitude quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Il suffit de supporter. La croix de Jésus est consentie, librement choisie. Deuxièmement, la croix, dans une certaine école de piété protestante, c'est le brisement intérieur. C'est le fait de me reconnaître pécheur, égoïste, incapable de me sauver, inguérissable même dans ce penchant pour le mal, de sorte que je dois toujours revenir, toujours me laisser briser par le message de Dieu, la reconnaissance de mon péché, pour que je sois de nouveau réconcilié avec Dieu et avec mes prochains. Encore une fois, très bien dans la substance, ça fait partie aussi de l'Évangile, mais ce n'est pas ça non plus qui était la croix pour Jésus. Quelle est donc la croix? C'est participer, suivre, avoir part à sa façon d'être dans le monde jusqu'à la mort. Et ça pourrait peut-être servir d'introduction, si jamais vous trouviez le temps pendant la sieste que Gérard vous a conseillé de prendre, de faire un résumé des textes qui sont sur la deuxième feuille, pour voir combien largement répandue dans le Nouveau Testament est cette pensée de vivre avec Christ la croix, c'est-à-dire de mourir avec lui, de participer dans son sacrifice, pas seulement sur un plan, mais sur beaucoup de plans, sur beaucoup de niveaux, en beaucoup de rapports, beaucoup de dimensions. Comme slogan général de ce que c'est que de le suivre.